Je m'appelle Sven Godot, je suis ingénieur industriel de formation, bien que j'ai toujours travaillé dans l'informatique. Et je fais partie d'un hackerspace, c'est un endroit où les hackers se réunissent pour geeker autour de l'électronique, autour de l'informatique. Et il y a une année, il y a Nicolas qui est venu vers nous. Pour avancer l'idée de construire un repair café, et c'est l'événement que vous vivez aujourd'hui. J'ai aussi une collègue de FixMe qui est venue nous joindre aujourd'hui, et ensemble on a pu fondre cet événement. Alors, pour l'obsolescence programmée, je voulais commencer par quelques concepts théoriques et analyser cette obsolescence programmée du point de vue de la technologie, du point de vue de la société et du point de vue des entreprises. Pour ensuite vous parler de ce projet de Repair Café en particulier, sur la vision qu'on a, et sur les recommandations et le positionnement qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Alors, pour commencer à décortiquer la chose, on peut séparer les termes. Il y a obsolescence et programmé. Donc, par obsolescence, on comprend le processus par lequel un objet devient obsolète, et on voit qu'il y a une perte de fonctionnalité. L'objet, il ne répond plus à sa fonctionnalité primaire. Il est dépassé par l'état de la technologie et essentiellement, il est destiné à être remplacé tôt ou tard. Et par programmé, on entend surtout que ça a été voulu dès sa conception. Pour vous donner un aperçu théorique, on a ici représenté la loi de Moore. Et la loi de Moore, c'est un constat qui a été fait par un ingénieur dans les années 70 qui travaillait pour Intel. Et il s'est rendu compte qu'environ tous les deux ans, le nombre de transistors par millimètre carré doublait. Alors ça, c'est un schéma logarithmique et on voit que ici on a une ligne de temps et on voit que les transistors ils sont en train de se multiplier. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour les processeurs, tout ce qui est électronique, la puissance de calcul va doubler. Et c'est on ne sait pas pourquoi, mais c'est un phénomène de la miniaturisation. L'importance de cette loi, c'est que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, en quelque sorte, on était capable de prédire le futur. Donc, si moi je suis un concepteur et je sais, je suis en l'an 2000 et je sais que pour mon application, j'aurais besoin d'une puissance de calcul de 1 milliard qui est là, alors je n'ai qu'à attendre 2008. Et j'aurai la puissance qu'il me faut pour mon application. Ça veut aussi dire que pour des objets électroniques, tous les deux ans, ils perdent la moitié de leur puissance comparé avec ce qui est disponible sur le marché. Ce schéma, il est exponentiel, donc il ne représente pas vraiment la réalité. Ici, on a sur une ligne de temps beaucoup plus large, qui est essentiellement toute l'histoire de l'humanité. Ici, on voit le nombre d'innovations. Et si on se réfère aux 200 dernières années, on voit qu'il y a eu l'invention du microscope, l'invention du téléphone, des premières voitures à la fin du 19e siècle, de la radio, des avions, les premiers ordinateurs, et cette innovation, elle est exponentielle, elle s'accélère, accélère, accélère. Donc, du point de vue de la technologie, on voit une accélération, et qui dit accélération de l'innovation dit aussi accélération de l'obsolescence. Et à travers la loi de Moore et d'autres modèles, on arrive à modéliser cela et à le comprendre. Et donc, on peut prédire le futur. Ici, un autre schéma qui s'appelle la courbe d'adoption, qui représente comment est-ce que la société s'approprie une nouveauté. Alors, ça c'est une courbe gaussienne statistique, et en haché, ici, vous avez le 100% de la population qui est divisée en plusieurs segments. En premier, on a les innovateurs pour environ 2,5% de la population générale. C'est les inventeurs, c'est les chercheurs, c'est ceux qui vont concevoir un nouveau produit et le mettre sur le marché. Après, on arrive avec les précurseurs, qui représentent environ 13,5% du marché. Et c'est des gens qui sont friands de nouveautés, c'est des gens qui adorent tout ce qui est nouveau. Et ça sera les premiers à croire dans cette innovation et à investir dedans. Après, on arrive à la majorité précoce, ça commence à prendre de l'ampleur, et on commence là, ici on est en train de parler de petites séries, et là on parle vraiment de séries de masse. Après, on a la majorité tardive, ça veut dire l'innovation elle est rentrée dans les mœurs, c'est quelque chose qu'on voit plus ou moins tous les jours, et en dernier, pour 16% de la population, on a les retardataires. Pour schématiser la chose, les retardataires, c'est essentiellement quand votre grand-mère adopte une technologie. Et la somme de tout ça, donc une innovation, elle va commencer dans un laboratoire, elle va être adoptée progressivement par la société et après elle va devenir gentiment obsolète. Il faut savoir que la plupart des innovations qui sont mises sur le marché vont mourir ici. Il y a tout plein de services qui... C'était une idée géniale, ça a eu une flambée pendant 6 mois et après plus personne n'en a entendu parler. Et c'est relativement rare ceux qui arrivent vraiment à conquérir des parts de marché et à rentrer dans la vie du monde. En haut, représenté en haut, on a quelques exemples de technologies. Ce schéma, il date un peu, on va dire, il a 5 ou 6 ans par rapport à l'état de la technologie aujourd'hui. Et on voit, par exemple, ici, Facebook, les BlackBerry, les morts, les iPhones, et Twitter et Android. Donc, si on veut représenter l'état de la technologie aujourd'hui, on prend tous ces éléments et on les pousse vers la droite. Parce que si on prend le cas de Facebook, on sait que la démographie principale de Facebook aujourd'hui, c'est la tranche 40-55 ans. Donc c'est passé dans la majorité tardive. Et maintenant tout le monde a un Gmail, MySpace c'est mort, les iPhones n'en fait plus, et les iPhones, il y a presque tout le monde qui en a un, ou au moins qui ont entendu parler. Et pour les technologies de retardateurs, la télé et les médias traditionnels tels de 24 heures, qui sont en perte de vitesse et en perte de marché. Ce schéma représente surtout un phénomène de mode et il est applicable non seulement à des produits technologiques, mais à n'importe. Ça peut être une idée, ça peut être une nouvelle tendance d'habillement. Tout va passer par ce cycle de mode, d'obsolescence et de fin de vie. Représenté ici, on a la loi de Weigull, qui est à nouveau une loi statistique et qui représente la probabilité de casse par rapport à un objet qui travaille. Alors, si j'ai une charnière qui est en train de faire du travail, qui dit mouvement, dit friction, qui dit friction, dit usure, et tôt ou tard, cette charnière va finir par se casser. Si moi, je suis le concepteur de cette machine à coudre, j'ai la possibilité pour ces composants qui vont travailler de choisir des matériaux. Et je peux me dire, par exemple, que cette charnière, je vais la faire en plastique, donc elle va se casser, ça c'est les cycles d'effort, donc elle ne va pas durer longtemps dans le temps, et il a une très haute probabilité de casse. Je peux faire je peux la faire en aluminium, je peux la faire en acier, ou je peux la faire en titane, et là, elle va bien durer dans le temps. Une pièce en titane, ça va durer 30, 50 ans sans problème. Mais, en même temps, j'ai en tête le schéma précédent, et je sais qu'il y a un phénomène de mode, que peut-être ma recherche de marché dit que les gens échangent de machine à coudre tous les 5 ans. Alors pourquoi est-ce que je vais m'amuser à faire des pièces en titane pour faire une machine qui va durer 50 ans, qui va me mettre, qui aura un prix beaucoup plus élevé et qui va me rendre mon produit non compétitif. Pour donner un exemple, je vais vous demander de faire un petit voyage dans le temps avec moi. On est en 1880. Moi, je suis un agriculteur du Gros de Vaud et je produis des légumes. Moi, j'ai besoin de ramener mon produit au marché du samedi à Yverdon. Et pour faire ça, je suis en train de penser à investir dans un chariot. Alors, sur le chariot que j'envisage, les pièces qui vont le plus travailler, c'est les pièces qui bougent, donc les roues, les essieux. Et puisqu'on est en 1880, je peux profiter d'une toute nouvelle innovation qui est de mettre du métal autour de la roue pour qu'elle s'use moins. Donc, ma préoccupation principale quand je suis en train de faire cet achat, c'est avant tout de ne pas acheter de la camelote, d'acheter quelque chose qui est durable dans le temps et qui va se casser le moins possible. Donc, mon objet aura une durée de vie de 30-50 ans. Et c'est un objet qui devient un peu un héritage que je peux donner à mon fils lorsqu'il va reprendre l'exploitation. Je m'intéresse surtout pas à la couleur et pour moi les phénomènes de mode ne sont pas importants. Pour résumer tout ça, on a une interaction entre l'état de la technologie à un moment donné, entre l'industrie qui va produire ça, en fonction des demandes du public. Et cela aura un impact très important sur l'environnement parce que quand un objet arrive en fin de vie, il y a tout un coût caché qui est lié à qu'est-ce qu'on va faire avec cet objet, parce que quand on jette un truc à la poubelle, il ne disparaît pas magiquement de la réalité. Et ça va engendrer des coûts pour la société qui ne sont pas forcément visibles et ne sont pas pris en compte dans le prix d'achat. Donc on finit dans une situation un peu comme ça, qui a été évoquée par Anaïs, où ce brave bonhomme en Chine, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il... il fouille dans les poubelles, il trouve des objets électroniques, il a des os pour récupérer surtout les métaux précieux et d'autres composants électroniques qu'il pourra après revendre. Et tout ça, c'est quelque chose que le consommateur ne verra jamais et il n'en a pas forcément conscience. Mais c'est un coût social et c'est un coût très important pour l'environnement parce que si on dit par exemple pour un téléphone mobile, il y a un ratio 100 entre le poids de l'objet et le coût en CO2 qu'on a eu besoin pour faire cet objet. Donc si mon téléphone il fait 200 grammes, ça veut dire 2 kilos de CO2 qui ont dû être investis pour faire ce téléphone. Et c'est pour ça qu'on vous a demandé sur les fiches le poids de vos objets. C'est à cause... je vais en parler par la suite. Donc, du point de vue de la société, on a une augmentation des phénomènes de mode qui, jusqu'à la moitié du XXe siècle, n'existait pas ou très peu. On a un manque d'incitation pour l'industrie de faire des produits durables à long terme, aussi parce que l'industrie sait que le public ne veut pas d'objets qui durent à long terme, et on a le coût caché pour l'environnement. Nous, on fait partie du projet Restart. C'est une association européenne qui est incorporée en Angleterre et qui met à disposition toute une série d'outils pour la mise en place de Repair Café. La semaine prochaine, quand on aura fini avec l'événement, on va prendre toutes ces fiches et on va les mettre dans une base de données. Une base de données qui va répertorier que la réparation a été faite, elle va estimer le coût en CO2 et ça va estimer le bienfait pour la société que cette réparation a eu. Tout ça, c'est agrégé au niveau européen et Restart s'occupe de faire du lobbying envers l'Union européenne et le gouvernement d'Angleterre pour favoriser la réparation et surtout pour faire pression sur l'industrie pour changer quelques comportements. Alors, pour vous expliquer les valeurs qu'on essaye de mettre en avant, on a pris ce schéma qu'on va décortiquer. Alors, ce qu'on veut, c'est d'avoir la possibilité d'acheter des produits qui ont une garantie de 20 ans, qui sont durables dans le temps, des objets qui vont devenir un peu des objets d'héritage. Dans le schéma ici, grand-maman n'a plus besoin de sa télé, donc elle a la possibilité de donner ça à quelqu'un d'autre. Cette personne a la possibilité de la réparer, de faire des mises à jour, de peut-être augmenter sa fonctionnalité et que l'objet ait une durée de vie qui dépasse les besoins d'une personne. On veut aussi qu'à l'école, on enseigne les techniques de réparation. Et la réparation, c'est avant tout un état d'esprit. Il faut oser ouvrir le téléphone, il faut oser essayer de comprendre son objet. Mais après, les techniques qu'on utilise, elles sont relativement simples à apprendre et c'est pas ça qui fait barrière. Mais l'effet de se dire, c'est une boîte noire, je sais pas comment ça marche, j'ose pas aller dedans. Et si on a la possibilité d'introduire ça déjà à un jeune âge, ben, ça aura un impact dans le futur. On veut qu'on puisse personnaliser les objets. Dina, qui fait la réparation des habits, elle a tout un programme tourné autour du upscaling. Et où on va prendre un objet obsolète, on va le pimper, pour utiliser ce terme, on va le personnaliser et on va augmenter sa valeur sur le marché. Pour la réparation, il y a une technologie émergente, c'est l'impression 3D. Quand on fait de la réparation, on se trouve confronté au problème des pièces de rechange. Des pièces de rechange qui sont souvent propriétaires et relativement difficiles à obtenir. Mais dans un futur, on sera capable d'utiliser ces imprimantes 3D pour imprimer exactement la pièce qu'il me faut pour la réparation que j'ai à faire maintenant dans l'heure qui suit. Mais c'est encore une technologie émergente et peut-être d'ici 5-6 ans, on y sera. On veut des lieux de réparation communautaire, comme ce qu'on essaye de vous amener aujourd'hui, où on puisse échanger autour de la réparation, partager les connaissances, partager les difficultés et vulgariser la réparation. On veut que ça soit quelque chose de visible, qu'on puisse trouver ça n'importe où, qu'on puisse savoir de la réparation n'importe où, que ça devienne quelque chose de la vie de tous les jours. On veut sensibiliser la population que la nouveauté a un coût. Et de changer tous les deux ans de téléphone, ça a un vrai impact pour la société et pour l'écologie. On veut influencer aussi le processus de manufacture. Et les jeunes designers qui seront les concepteurs de demain, on veut avoir des objets modulaires qu'on puisse facilement réparer, qu'on puisse échanger des composants, qu'on puisse personnaliser en quelque sorte l'objet sans avoir face à un objet qui est difficilement réparable. On veut qu'on pense au cycle complet, le cycle de vie complet du produit. On pense à des possibilités de remanufacture, ce qui veut dire prendre des produits qui sont cassés ou qui sont défectueux pour les revendre dans des marchés de deuxième main. On veut qu'on pense au recyclage, parce que si on prend l'exemple des téléphones, les batteries en lithium qui finissent sous terre en Chine, c'est des vraies saloperies, ça détruit l'écologie.
Mais avant de penser au recyclage, il faut penser à la réutilisation, parce que la réutilisation, c'est la meilleure forme de recyclage. Parce qu'on est en train d'étendre la durée de vie du produit de quelques années, et c'est tout ça de CO2, de poubelles et d'autres chenilles qu'on n'est pas en train de rebalancer dans l'environnement. Et avoir une manufacture qui soit durable dans le temps, parce que notamment pour les téléphones, parce que c'est ce que je connais, il y a tout plein de matériaux qui sont, par exemple, le lithium, c'est une ressource minérale qui prend énormément d'énergie pour extraire de la terre, qui sont après passées par des usines en Chine qui sont alimentées par des centrales à charbon, et le tout n'est pas soutenable. Donc le concept qu'on met en avant, c'est d'avoir des événements de proximité. Ici, on est à la maison de quartier Sougar, et on invite le quartier à venir réparer. On veut que les gens prennent possession de leur objet, parce que de réparer un objet, c'est d'avoir la maîtrise dessus. Si mon objet il se casse quand il veut, il fonctionne quand il veut, je ne suis pas vraiment son maître. C'est lui qui me domine, et il faut dire non à ça. Et par la réparation, de lui dire maintenant tu vas marcher comme il faut, et c'est moi ton maître. Au niveau du concept social, on veut amener les requérants d'asile à la rencontre du public, qui puisse mettre en avant leurs compétences et leur savoir-faire. Et on a surtout une mission d'éducation qui est de former les requérants et le public aux compétences techniques de base et aussi aux concepts théoriques qu'on a vus précédemment. Donc, les recommandations, c'est de réparer. Même si ça coûte un peu plus cher, ça fait un grand geste envers l'environnement et la société. C'est de réutiliser et aussi de privilégier le don plus que de jeter à la poubelle. Si un objet peut être réutilisé par une autre personne, c'est un bienfait pour tout le monde. De recycler. Et surtout, notre concept clé, c'est de faire tout ça dans le respect. Et nous voilà arrivés à la fin. Donc je vous remercie de m'avoir entendu, et je remercie aussi la maison de quartier Sougar de nous avoir accueillis ce jour.